J'aimerais parler sur les bienfaits de la prière en langue dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Le parler en langue, c'est un sujet qui surprend encore aujourd'hui, c'est pourtant dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples de gens qui ont parlé en langue, des chrétiens qui ont parlé en diverses langues. Et c'est une manière de prier Dieu qui est encore d'actualité. C'est encore possible aujourd'hui de prier en langue, de faire monter cette forme de prière. On dit aussi prier par l'esprit. Vous trouverez cette expression, prier par l'esprit, prier en langue, ce sont des synonymes. Il y a deux prophéties en fait qui annoncent le parler en langue. La première se trouve dans Ésaïe chapitre 28 verset 11. 700 ans avant que ça se produise, le prophète avait annoncé « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Déjà, le langage barbare, alors il faut comprendre, le mot barbare, c'est un langage étranger, c'est-à-dire de langue étrangère. Et déjà, les langues étrangères sont annoncées ici par Ésaïe comme quelque chose qui allait se produire dans l'avenir. Et Jésus aussi en parle dans Marc 16, verset 16. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Donc Jésus, avant la Pentecôte, annonce que cette prophétie d'Ésaïe va s'accomplir par des nouvelles langues. Et la première expérience du parler en langue, on le sait, c'est dans Actes chapitre 2, c'est le premier baptême du Saint-Esprit. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. » Ce ne sont pas des langues que nous choisissons, ce ne sont pas des langues que nous reproduisons, ce sont des langues qui nous sont données par le Saint-Esprit pour exprimer quelque chose de sa part. Après cette expérience, d'autres chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis aussi à parler en langue. Donc on voit que depuis Acte 2, en fait, c'est la volonté de Dieu que nous parlions en langue. C'est pourquoi nous considérons que c'est encore un signe aujourd'hui. Quand quelqu'un parle en langue, qu'il est rempli du Saint-Esprit, il se met à parler en d'autres langues. C'est un signe visible, audible, que la personne est remplie du Saint-Esprit. D'ailleurs, le premier parler en langue de l'époque récente, c'est-à-dire dans les années 1900, si on remonte au début du réveil de Pentecôte, c'était un homme qui s'appelait Charles Parham, qui avait fait un institut biblique, et qui, un soir, ils ont cherché la face de Dieu dans la prière, et ils ont vu qu'il y avait des baptêmes du Saint-Esprit avec des parlers en langue. Et ils ont recherché cette expérience. Et une sœur qui s'appelait Agnès Osman a été la première à expérimenter, donc dans cet institut, ce soir-là, un parler en langue. Un parler en langue qui lui a été donné et elle s'est mise à l'exprimer. C'était le 1er janvier 1901. Et ensuite, ce réveil s'est propagé. D'autres étudiants ont parlé en langue et puis d'autres en d'autres lieux. Aujourd'hui, plus de 600 millions de personnes ont été touchées par les langues, puisque c'est le nombre de pentecôtistes ou pentecôtisants dans le monde. Donc Paul donne ici, dans 1 Corinthiens 14, je voulais qu'on s'arrête sur ce chapitre, parce que nous avons ici un enseignement sur le parler en langue et les bienfaits du parler en langue. Il écrit aux Corinthiens, alors il faut tout de suite préciser que quand Paul écrit aux Corinthiens, c'est dans un contexte particulier. C'est-à-dire que l'église de Corinthe avait des excès dans le domaine des dons spirituels et particulièrement du parler en langue. Donc on voit que Paul en fait les recadre pour qu'ils aient un équilibre. C'est pourquoi il y a pas mal de textes correctifs ici pour ramener une église qui a dévié. Donc il faut en tenir compte dans la lecture pour bien comprendre pourquoi il y a toutes ces corrections. J'aimerais voir sept points, sept éléments qui ressortent de ce chapitre pour nous montrer les bienfaits du parler en langue. Le premier point, c'est versets 1 à 4, ce qu'on vient de lire, c'est qu'il y a deux buts au parler en langue. Le premier but, il dit, c'est pour parler à Dieu. Ça, quand on parle en langue, c'est une manière de s'adresser à Dieu et de dire des mystères en esprit. Donc, on parle en esprit ou on parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est en esprit que nous disons des mystères. Vous voyez, c'est à la fin du verset 2. Il parle à Dieu, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Son esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Il parle en langue et il parle à Dieu. Donc celui-là même qui parle en langue ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire, mais il sait qu'il dit des mystères et il sait qu'il parle à Dieu. En priant en langue, nous permettons à l'Esprit de prier à travers nous pour faire monter une prière agréable à Dieu. Et là, nous sommes sûrs de prier selon la volonté de Dieu, puisque les langues nous sont données par Dieu et nous sommes conduits par l'Esprit. Donc premier but, il y en a deux. Premier but, c'est on parle à Dieu. Et deuxième but, c'est de s'édifier soi-même. Vous voyez, c'est au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même, c'est-à-dire il est en train de se fortifier spirituellement. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous donner des forces spirituelles. C'est le même verbe, d'ailleurs, comme s'il se bâtit lui-même, comme un peu si on construit une maison, c'est le même verbe que vous utiliserez pour dire « je vais édifier une maison ». C'est s'édifier soi-même. Ça parle de construction. Ça parle de solidité. Et aujourd'hui, on a besoin d'être solide dans les choses de Dieu. Donc, le parler en langue a ce but. Notre vie, c'est un peu comme une maison. Vous voyez, si elle n'est pas solide, quand la tempête arrive, elle va s'effondrer. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fragiles. Donc, le parler en langue va vous donner une solidité qui va permettre de résister dans l'épreuve. Le parler en langue nous rend plus matures et plus solides spirituellement. Donc ça, c'était le premier point, c'est les buts. Maintenant, deuxième point, le parler en langue interprété dans l'Église, c'est au verset 5 à 6. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Jusqu'au verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» Donc le parler en langue, on voit très bien que c'est la conséquence de ce baptême du Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit nous remplit, et il y a ce parler en langue. C'est une promesse encore pour nous aujourd'hui. Donc tout chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus, il doit, pour aller plus loin, il doit rechercher la communion avec le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. On ne cherche pas les langues, on cherche la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui nous donne les langues. Il ne s'agit pas de répéter une langue que vous avez entendue, il s'agit de laisser le Saint-Esprit parler à travers vous. Donc une personne qui parle en langue peut aussi apporter un don spirituel en langue à l'Église. Il y a une différence entre le parler en langue, on va dire que l'on fait dans notre culte personnel, du parler en langue qui va être donné à l'Église, qui va nécessiter une interprétation. Vous avez 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, vous les connaissez, il y a parole de sagesse, parole de foi, parole de connaissance, les miracles, et puis à la fin vous avez parler en langue et interprétation des langues. Eh bien ces deux derniers dons vont ensemble, c'est-à-dire que celui qui va parler en langue pour l'Église, il va devoir être interprété par une autre personne qui ne traduit pas mais qui reçoit par l'Esprit le sens spirituel de la langue. Donc la prophétie, elle, au contraire, elle est comprise directement. On sait que le but de la prophétie, c'est édifier, consoler, exhorter. Tandis que le parler en langue, il n'est pas compris directement, il faut l'interpréter. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'il y a 2 sortes de parler en langue, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le chapitre 14. Il y a le parler en langue de tous les jours, compris dans notre culte personnel, quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue, mais ce parler en langue n'a pas besoin d'être interprété. C'est une forme de prière, on prie en esprit, on s'adresse à Dieu, on dit des mystères à Dieu, voilà, c'est une manière de prier, de faire monter vers Dieu cette prière, et puis de s'édifier soi-même. Ça, c'est le premier type de parler en langue. Et puis, le deuxième type de parler en langue, c'est un don spirituel, celui de 1 Corinthiens 12, où il est dit, cette langue, elle doit être interprétée pour que l'Église soit édifiée. Donc, c'est différent. Et ce don spirituel de parler en langue va nécessiter une interprétation, parce que sinon, ce don n'aboutira pas s'il n'est pas interprété. Donc, Paul enseigne aux Corinthiens un équilibre. C'est pour ça que je dis qu'il redresse une Église qui était en train de dévier. Il va se faire comprendre de manière intelligible. Il dit, je viens avec des révélations, paroles de connaissance, des prophéties, des doctrines. Mais s'il vient avec un parler en langue, il dit, il faudra qu'il soit interprété pour l'édification commune. Parce qu'il dit, sinon, ça ne vous sera d'aucune utilité. Donc c'est pour ça qu'il fait bien la différence entre ce parler en langue personnel et le parler en langue qui nécessite une interprétation. Troisième point, il va prendre maintenant l'exemple d'un instrument de musique, dans 1 Corinthiens 14, verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette ne rend pas, rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Ici, il prend l'exemple d'un instrument de musique pour montrer que chaque instrument, il faut qu'on reconnaisse les notes qui sont données par l'instrument. Il faut que ça soit un son distinct. Si c'était un son confus, on n'arrive pas à discerner la mélodie, on n'arrive pas à comprendre. Donc le parler en langue non interprété, si quelqu'un parle en langue pour s'adresser à l'Église, mais qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est comme si on avait un instrument qui fait du bruit, mais on ne comprend pas la mélodie, on ne comprend pas le sens. Alors certainement c'est utile pour celui qui parle en langue, parce qu'il va s'édifier lui-même, il va parler à Dieu, d'accord? Mais l'Église n'est pas édifiée. Apparemment, les Corinthiens avaient développé beaucoup de parler en langue dans l'Église, donc ils parlaient beaucoup en langue, même pour enseigner, mais c'était trop. Il leur dit, c'était trop, il faut un équilibre. Il faut un équilibre, parce que si vous parlez beaucoup en langue et qu'il n'y a pas la traduction, les gens vont rien comprendre. Imaginez que si ce soir, si je vous prêchais en chinois, par exemple, vous seriez peu nombreux à comprendre. Parce que personne, très peu, très, très rares sont ceux qui ont étudié cette langue. Donc ça serait peu édifiant, vous entendriez par une langue étrangère, et vous ne sauriez pas du tout de quoi je parle. Et c'est ça le problème des Corinthiens. Ils parlaient tellement en langue que personne ne comprenait de ce qu'il était question, parce qu'il n'y avait pas l'interprétation des langues, et donc ça n'aboutissait pas à édifier l'Église. C'est pourquoi il dit « vous parlez en l'air ». Vous voyez, quand je vous dis que Paul reprend une église, on sait que le parler en langue, c'est bon, mais un parler en langue, finalement, si on est dans l'excès, s'il n'est pas interprété, c'est comme si on parle en l'air, voilà, ça n'aboutit pas à un don spirituel efficace. Le parler en langue, donc, a sa place, et il doit être associé à l'interprétation des langues, sans quoi il n'aboutit pas. Et Paul insiste sur cette complémentarité et la nécessité de l'interprétation. Quatrième élément, c'est maintenant la diversité des parlers en langue. Dans les versets 10 à 12, « Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare ou un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Il existe une multitude de langues dans le monde. On estime environ 7000 langues actuellement sont parlées. C'est beaucoup. On en connaît finalement très peu. Il y a des langues et des dialectes. Paul même parle, « Et si je parlais les langues des hommes et des anges. Il semble que même au ciel, il y a encore diversité de langues. Et donc, le parler en langue vient de Dieu et il est très varié d'une langue à l'autre. Et l'Église doit comprendre qu'il y a cette diversité des langues et même le parler en langue peut évoluer. Et en tout cas, ce que Paul vise, c'est l'édification de l'Église. Et si nous voulons que l'Église soit édifiée, il faut que ces parlers en langue, qui sont divers et variés, soient interprétés correctement pour l'édification, sinon nous serons comme des étrangers les uns pour les autres. Cinquième point, c'est maintenant chapitre 14, versets 13 à 19, c'est la prière par l'Esprit dans le culte personnel. Et là, on va basculer sur un autre aspect du parler en langue, c'est maintenant le parler en langue dans son culte personnel, non pas celui qui est à l'Église et qui doit être interprété. Alors, versets 13 à 19, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Voyez l'expression ici, c'est prier par l'esprit, c'est vraiment la prière en langue. Il comprend pas ce que tu dis, tu es en train de prier en esprit, ou on pourrait dire prier en langue. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors, la prière en langue, c'est vraiment déjà un défi à la raison humaine parce que là, on n'est pas dans une langue qu'on apprend et qu'on exprime. C'est pas la prière avec l'intelligence. Par exemple, quand on prie en notre langue à nous, le français, on prie notre intelligence, elle nous guide pour prier. Mais quand vous priez en langue, il dit l'intelligence est au repos et c'est par l'esprit que vous dites des prières à Dieu. Donc on ne comprend pas ce que l'on dit quand on prie, mais nous savons que ce sont des bonnes choses et spirituelles. C'est là que Paul explique qu'il y a deux sortes de prières. Il y a la prière avec l'intelligence et la prière par l'esprit. La prière par l'intelligence, c'est celle que nous exerçons le plus souvent quand on est rassemblés en réunion soit de prière ou au culte, c'est-à-dire qu'on fait monter vers Dieu notre prière, notre reconnaissance, notre adoration, et tout le monde comprend ce qu'on dit. Ça, c'est prier avec l'intelligence. Et puis, il dit, il y a aussi la prière par l'esprit. Prière en langue, prière dans le Saint-Esprit, tout ça, c'est la même chose. Et là, il dit, ça permet de rendre d'excellentes actions de grâce. Donc, on voit que ça permet de s'adresser à Dieu. C'est une forme de prière. Mais il dit, c'est plus pour le culte personnel, parce que si tout le monde prie en langue dans l'Église, ben, l'Église, finalement, n'est pas édifiée par ces prières parce que personne ne les comprend. Donc, Paul prend son exemple personnel. Il dit qu'il parle beaucoup en langue. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc, c'est quelque chose qu'il pratiquait abondamment. C'est ce que nous devons faire aussi, parler en langue. Mais il dit qu'il préfère le faire chez lui ou dans son culte personnel, dans ses temps avec Dieu, seul avec Dieu, on va dire, ou en petit comité, plutôt que d'être dans l'Église et d'apporter une prière en langue. Si elle n'est pas interprétée, en tout cas, elle n'aboutira pas à l'édification. Alors, s'il donnait un parler en langue dans l'Église, il s'attendait à être interprété, parce qu'il sait que ce parler en langue, il doit être interprété, sinon on n'est pas édifié. Donc, Paul est tout à fait pour le parler en langue, et nous sommes tous d'accord pour dire que le parler en langue, c'est une bonne chose. Mais là, il veut mettre l'équilibre et il encourage les chrétiens à prier beaucoup en langue dans leur culte personnel et de prier en langue intelligible dans l'Église. Et si quelqu'un reçoit un parler en langue dans l'Église, il dit qu'il soit interprété par un don spirituel d'interprétation. Alors l'Église est édifiée, alors l'Église peut dire Amen. Et voilà, c'est un petit peu l'ordre que Paul voulait remettre dans cette Église qui avait donc dévié sur le côté parler en langue débordant. Et quel est l'intérêt du parler en langue dans le culte personnel? Finalement, on l'a dit, c'est de s'édifier soi-même. Et puis, prier longtemps avec son intelligence, c'est pas facile. Parce que vous priez, vous êtes devant Dieu, mais il n'y a pas forcément de réponse. Des fois, Dieu vous parle dans votre cœur, puis des fois, c'est le silence. Et vous ne savez plus quel sujet prier. Le parler en langue vous aide à prier, finalement. Quand vous ne savez pas que prier, Paul dit, nous ne savons que demander dans nos prières. On prie comme des soupirs inexprimables. On peut prier en langue. Et on sait qu'en priant en langue, notre prière, elle est agréée de Dieu. Et c'est une prière conduite par l'Esprit. Donc, c'est une bonne chose. Sixième point, c'est maintenant le signe du parler en langue dans le verset 20 à 25. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, allez. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits ou des hommes matures, responsables, spirituels. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et là, on vient à ce fameux passage d'Ésaïe, Ésaïe 28, 11, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, Paul relie bien cette prophétie d'Ésaïe à ce parler en langue. Elle vise bien le parler en langue. Je vous le dis en français courant, c'est dans un langage inintelligible et dans une langue étrangère que le Seigneur va désormais s'adresser à ce peuple. Et donc, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, Paul relie cet événement à cette prophétie d'Ésaïe. Mais ce signe prophétique doit être interprété pour utile aux non-croyants. Le don d'interprétation permet que le don des langues aboutisse. Maintenant, on va s'arrêter sur le verset 22 qui est un peu compliqué, parce que souvent, on ne comprend pas ce verset, qu'est-ce qu'il vient faire ici. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Il est un peu compliqué ce verset, il est difficile à comprendre. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que c'est relié à la prophétie qui est juste avant, vous voyez au verset 21, c'est la prophétie ici, Ésaïe, où dit Dieu qui va parler par des lèvres étrangères et ça sera les parler en langue. Donc c'est lié à ce qui est cité précédemment et les langues, en fait, pour eux seront un signe de jugement. Un signe de jugement. C'est-à-dire ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les langues manifestent bien la présence de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Et ces langues peuvent même endurcir leur cœur. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, par exemple, certains ont cru, mais d'autres ont été endurcis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont pleins de vin doux et ils ont jugé. Et pour eux, c'était un signe négatif, c'était un signe de jugement. Donc le signe n'est pas toujours positif. La prophétie, au contraire, c'est un signe pour les croyants parce que la prophétie révèle la volonté de Dieu. Mais vous devez y ajouter la foi. Et le croyant reconnaît que la prophétie, c'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit et c'est une preuve que Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Donc c'est un signe, lui, positif, mais pour les croyants. Et il faut croire. Ensuite, il dit, si le parler en langue dans l'Église n'est pas interprété, les non-croyants qui rentrent, ils vont dire, vous êtes fous, on ne comprend rien, tout le monde parle en langue. Mais si la langue est interprétée, le message devient réel, c'est l'occasion pour lui de croire, il est touché par la présence de Dieu, et là il peut se repentir et donner son cœur au Seigneur. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis arrivé dans un culte, quand j'avais prié, Dieu Seigneur, si tu existes, parle-moi, je suis arrivé dans un culte, c'était à Royan, Il y a eu un parler en langue que personne n'a compris, que je n'ai pas compris. Mais quand il a été interprété, j'ai compris que Dieu s'adressait particulièrement à moi. J'ai compris chaque parole. C'était comme si Dieu me parlait directement par cette personne que je ne connaissais pas, qui interprétait le parler en langue. Ben, j'ai vécu presque littéralement ce verset. Il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. C'est ce qui s'est passé pour moi, parce que tout a été dévoilé. Les secrets que étaient dans mon cœur, personne ne savait. Ils étaient dévoilés. Telle sorte que tombant sur sa face, il adora Dieu. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombé sur ma face, mais j'ai reconnu que c'était Dieu qui me parlait à ce moment-là. Et je me suis converti sur le champ. Donc vous voyez, c'est réel. C'est la parole de Dieu. C'est pas des histoires du passé, c'est des histoires que l'on peut vivre aujourd'hui encore, si on s'attend à Dieu. Et c'est des choses qui sont pour nous. Alors attendons-nous à recevoir les paroles de Dieu, que ce soit des parler en langue, mais qui sont interprétées. Et quand c'est la pensée de Dieu qui est donnée, ben les cœurs sont touchés, il y a des conversions, il y a des nouvelles naissances, et c'est l'œuvre de Dieu. Je termine avec le bon ordre dans l'Église. Les versets 26 à 39... Il va parler de l'ordre, mais je vais m'arrêter plutôt sur le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce vous seul, à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Verset 39, il conclut. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc les réunions des premières églises étaient très participatives. Tout le monde pouvait apporter une parole. Ben, ça peut être une parole d'une prophétie, ça peut être une parole de sagesse, ça pouvait être une exhortation. Donc ça, c'est très favorable dans les petits groupes. Rappelez-vous que les premières églises étaient des groupes de maisons, avec 15, 20 personnes. C'était pas des énormes églises. Chacun s'attendait à être utilisé par Dieu pour apporter quelque chose. L'un avait un cantique, l'autre avait une instruction, l'autre avait une révélation, un avait un parler en langue, d'autres avaient l'interprétation, etc., etc. Donc c'était très vivant et très participatif. Et c'est le Saint-Esprit qui distribuait les dons, et l'attente était forte. Il nous faut nous attendre à être utilisés par Dieu aussi. Et Paul a rappelé la nécessité d'avoir de l'ordre. Par exemple, il dit dans l'Église que deux ou trois parlent en langue, et qu'il y ait l'interprétation. Ensuite, il dit qu'il y ait deux ou trois prophéties. Donc tout ça, ça nous parle d'ordre pour ne pas tomber dans le piège des Corinthiens qui avaient dévié. Le but, c'est l'édification du peuple et d'être dans l'ordre et la paix. Vous voyez le verset 34, quand il est dit que les femmes se taisent dans les assemblées, il faut aussi bien comprendre ce verset, parce que si on l'isole du reste de la parole, on ne comprend plus. Mais dans la même épître, Paul encourage les femmes à prophétiser et donc à parler dans l'Église. Donc de quoi s'agit-il quand il dit que les femmes se taisent ici? Il s'agit des femmes mariées qui interrogeaient leur mari pendant la réunion et qui perturbaient la réunion, tout simplement. Donc cela, il dit, vous demandez à la maison à votre mari. Donc c'est un cas particulier où ça crée un certain désordre. Et donc Paul demande, plutôt que d'interroger vos maris pendant la réunion, interrogez-les à la maison. Vous voyez, donc c'est pas que Paul interdit à la femme de parler, puisque dans la même épître, il dit que la femme, elle peut prier, elle peut prophétiser, elle peut parler de la part du Seigneur, etc., et exercer les dons spirituels. Donc Paul a écrit ce passage dans le but de corriger des dérives, de remettre de l'ordre dans l'Église, faut le comprendre aussi ça, et il termine en maintenant l'utilité du parler en langue. Il dit à la fin, donc c'est la conclusion, verset 39, plutôt verset 39, il dit « N'empêchez pas le parler en langue ». Parce que si il corrige, il ne veut pas non plus étouffer ou arrêter le phénomène du parler en langue. Donc il dit « Oui, c'est bon le parler en langue, mais le parler en langue doit être bien compris et bien utilisé ». En conclusion, la prière en langue, c'est toujours d'actualité. Et le parler en langue, ben, c'est toujours le signe évident qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, comme à l'époque des apôtres. C'est la même bénédiction pour nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on entend un peu tout sur le sujet, par rapport aux langues, par rapport au parler en langue, par rapport au baptême du Saint-Esprit. Bon, ben, la Bible, elle est assez simple. Après, c'est une question de foi. Le parler en langue, c'est une vraie bénédiction pour les croyants. On voit qu'il édifie, qu'il nous permet de nous édifier nous-mêmes, qu'il nous permet de parler à Dieu, de prier en esprit. Nous devons le pratiquer abondamment dans notre culte personnel. J'ai lu le témoignage de Jackie Pullinger, qui est allé missionnaire en Chine, dans la cité interdite. Elle a, surtout auprès des drogués, elle a fait un travail pour prêcher la parole et puis amener des drogués au salut. Donc ils se sont convertis, ils ont changé de vie. C'est un très beau témoignage. Et elle disait que tous les jours, elle prenait au moins 15 minutes tous les jours à prier en langue dans son culte personnel pour pouvoir aller porter secours à ces personnes. Ça lui permettait d'entretenir son cœur et sa relation vivante avec Dieu. Et si on est amené à donner un parler en langue qui doit être interprété, alors prions pour le don d'interprétation. Et ça, c'est dans l'Église. Quelquefois, on entend un parler en langue. Eh bien, ce parler en langue, il doit être interprété. Et ça, c'est un autre don qui permet que l'Église soit édifiée. Les chrétiens baptisés du Saint-Esprit peuvent parler en langue de manière discrète dans l'Église ou dans son culte personnel. C'est une forme de prière. Mais lorsque c'est un don en langue, il faut le dire bien fort. Et à ce moment-là, on s'attend à l'interprétation. Le parler en langue est tout à fait compatible avec l'ordre et la bienséance, puisque Paul ne l'interdit pas. Donc nous ne devons pas l'interdire, mais nous devons simplement le cadrer comme la parole de Dieu nous l'enseigne. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole qui nous enseigne tous les bienfaits de la prière en langue, la prière par l'esprit, et nous voulons progresser aussi dans ces domaines spirituels, hautement spirituels, dans notre culte personnel, dans notre relation avec Dieu, comme Paul pouvait le dire, qu'il parlait abondamment en langue dans ses temps de prière, dans ses temps personnels de prière. Et nous prions pour que nous soyons revêtus de cet esprit, de ces dons spirituels, de ces paroles qui viennent d'en haut. Accorde-nous, Seigneur, les interprétations des dons en langue. Accorde-nous les prophéties, les paroles de sagesse, les paroles de foi, les paroles de connaissance. Tous les dons, Seigneur, que tu as prévus pour nous dans ta parole. Nous ne voulons pas limiter ta puissance encore ce soir. Viens visiter encore ton Église. Viens accorder encore des visions, des révélations qui viennent d'en haut. Oui, Seigneur, nous avons encore faim, nous avons encore soif de ta présence, nous voulons aller plus loin. Seigneur, viens encore réveiller nos cœurs, nos consciences, que nous avons des progrès à faire pour marcher plus près de toi encore, pour être davantage à ton écoute, davantage en communion avec toi. Oui, dans le nom de Jésus, merci de conduire ce temps de prière par ton esprit maintenant. Que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Amen.